le grand pouvoir. Il y aura des signes certainement dans le ciel, mais c'est aussi l'anarchie qui sera là partout. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Je n'ai pas dit quel signe, mais c'est lui-même. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme revenant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ça, c'est le retour glorieux du Seigneur. Mais avant ce retour glorieux, il doit se produire un mystère. C'est l'enlèvement. Vous comprenez, mais ça, c'est un secret. Parce que le monde ne le verra pas. Mais ceux qui croient, c'est le secret dont on parlera. Il enverra ses anges. Alors là, on sera avec lui quand il revient en gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et rassembleront les élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Ces gens qui auront été évangélisés aussi par les témoins juifs, il y en aura de tous les peuples, de toutes les nations. Elles seront rassemblées. Alors, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération. Alors on dit, ben vous voyez, Jésus s'est trompé. Cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Alors, est-ce que c'est la génération de Jésus? Cette génération n'a pas passé que la ville a été détruite par les Romains, ça c'est vrai. Mais ici, le mot génération a le sens, cette génération incrédule dans laquelle je vis sera dans le même état. Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Quand le Seigneur reviendra en gloire, eh bien, il y aura encore ce caractère d'une génération incrédule et perverse. On aura adoré la bête, on aura pris la marque de la bête pour pouvoir acheter et vendre. Et ceux qui n'auront pas la marque de la bête, ils ne pourront ni acheter ni vendre. Comprenez-vous? Ce sera un temps terrible. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors c'est là qu'il faudrait lire, si vous voulez davantage, connaître la fin de l'an 70, c'est dans les autres, dans l'évangile de Luc, c'est plus précisé. Mais pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé. Alors voilà, l'époque nous est décrite. Alors ce que nous voyons maintenant, c'est qu'on arrive dans une époque où les mêmes choses qu'au temps de Noé arrivent. Alors on voit les signes du retour en gloire se manifester. Alors on peut penser que l'enlèvement de l'église, l'étoile du matin, est proche. Puisqu'on voit, parce que pour l'enlèvement de l'église, il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe. Il peut revenir, il pouvait revenir du temps des apôtres. Les apôtres ont attendu comme ça. Parce que Jésus, toutes les paraboles que vous trouvez au sujet de la venue de Jésus, il faut l'attendre sans savoir le jour, sans savoir l'heure. Jésus ne s'est pas trompé du tout. C'est nous qui sortons les Écritures. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors l'avènement du Fils de l'homme, c'est son retour en gloire qui sera vu de toute la terre. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. On ne veut pas croire maintenant. On ne croira que quand on verra. Mais quand on verra, c'est trop tard. La foi est un temps bienheureux. Ce temps bienheureux de la foi va prendre fin et les hommes seront obligés de croire en face de l'évidence. Et quand on doit croire en face de l'évidence, c'est la permission. Comprenez-vous? Quand les choses se manifesteront, vous croirez, mais c'est trop tard. Quand la pluie est tombée et que l'arche a commencé de monter, il le voyait. Noé, Noé, ouvre-nous. Mais il ne pouvait rien faire. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ils n'ont pas cru. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Alors, l'une, littéralement, au sujet du règne, l'une sera prise pour le jugement et l'autre laissée pour le règne. Comprenez-vous? Mais s'il est question de l'enlèvement de l'Église, alors l'un sera pris pour l'enlèvement et l'autre laissé pour la tribulation, pour le temps terrible. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur devait venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Mais Jésus ne vient pas comme un voleur pour l'Église. Comprenez-vous? Il vient comme un voleur pour le monde, parce que le monde ne l'attend pas. Donc c'est après ça. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra alors que vous ne penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Au fond, qu'est-ce que devait faire l'Église? Qu'est-ce que nous devons faire, nous? Nous sommes établis pour donner quoi? La nourriture. Est-ce que vous êtes nourris? Est-ce que l'Église vous apporte la nourriture? Est-ce qu'on a apporté, est-ce que l'Église a apporté la nourriture aux âmes? Les âmes sont affamées. Elles ne savent pas que croire, parce que la parole n'est plus prêchée dans son intégralité. Et les gens sont pris par toutes sortes de sectes. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée retrouvera veillant. Faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, et vous savez, on peut avoir des méchants serviteurs dans la maison de Dieu, des faux ouvriers, qui disent en lui-même, mon maître tarde à venir. Et c'est pas ce qu'on a dit? Il ne reviendra pas. Mon maître tarde à venir. Puisque le Seigneur ne revient pas, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec eux, avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et alors qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièce, et il donnera sa part aux hypocrites, avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Eh bien voilà, mes amis, c'est l'heure du souper, je m'excuse, mais j'ai essayé de vous brosser un tableau, nous allons reprendre ça ce soir. Alors, mes amis, nous voici au soir du 2 février. Est-ce que je peux vous demander des nouvelles de vos appuis? Ça a été? Bien? Vous êtes sentis libre de pouvoir vous exprimer? Bon. Seigneur, nous voulons te demander que tu nous bénisses dans ces derniers moments de cette semaine qui se termine, nous te demandons de nous donner ta grâce pour recevoir tout ce qui est dans ton cœur et que tu voudrais déverser dans notre cœur. Nous savons, ô Jésus, que tu fais le bonheur du Père de toute éternité. Et si le Père t'a donné à nous, c'est pour que nous ayons, nous aussi, le bonheur de Dieu. Que nous faudrait-il de plus? Connaître le bonheur de Dieu. Être les enfants du Dieu bienheureux. Devenir des bienheureux. Au travers de cette marche dans le désert, nous te demandons que tu nous accordes cette grâce et que ce soir, nous puissions nous endormir dans la paix du Seigneur. Amen.
Amen.
La dernière question de cet après-midi préparait donc un peu le sujet que vous avez considéré ce soir, toujours en traitant notre thème, la parole prophétique, ou une lampe qui brille dans un lieu obscur. Cet après-midi, nous avons considéré cette parole prophétique, surtout à travers l'Ancien Testament, et aussi les évangiles et comment le Seigneur interprétait cette parole. Et nous vous avons dit que dans l'Ancien Testament, on trouve le monde divisé en deux groupes. Israël et les nains. Israël qui a la loi pour être dirigé dans la volonté de Dieu, et les nations qui ont quoi pour être dirigées? La loi naturelle d'une part, hein, parce qu'il y a des lois naturelles, qui rendent les païens même inexcusables, disons-nous. Dans le chapitre 1er des Romains, on est inexcusable quand on viole les lois naturelles. Parce que Dieu les a données. Et vous êtes simplement inexcusable de violer les lois naturelles. Elles sont pas nécessairement dans la Bible, les lois naturelles, mais elles sont dans la nature. Alors, si on fait quelque chose qui est contre nature, on n'a pas été créé pour cela. Alors, cette violation des lois naturelles nous rend inexcusables, même si on n'a pas la Bible. Mais, on a aussi, pour nous guider, les nations, les païens, ont une conscience. On a la voix de la conscience. Les Israélites aussi avaient une conscience, mais ils avaient en plus la loi. Ils avaient reçu la révélation de la loi. Mais nous, nous avons aussi notre conscience qui nous accuse ou qui nous excuse. Quand on viole les lois naturelles, on sait très bien qu'on fait mal. Alors donc, il y avait donc ces deux groupes. Alors, ce que nous voyons, quand Jésus est venu sur la terre, les païens étaient réunis avec les juifs, il y avait les romains sur la terre d'Israël, avec Pilate, représentant des païens, les représentants de la conscience, et puis les représentants de la loi, qui se glorifiaient d'avoir la loi de Dieu. Or, il vient un être du ciel, qui est le Seigneur Jésus, qui est le seul qui a accompli la loi, qui l'a rendue grande et honorable, et les dépositaires de la loi saisissent Jésus et le condamnent à mort, parce qu'il se disait fils de Dieu. Mais comme ils n'ont pas le pouvoir de faire mourir, ils doivent le livrer à qui? Aux Romains. De sorte que les Juifs, qui se glorifiaient d'avoir la loi, ont condamné le seul qui avait accompli la loi, elles l'ont livré au pouvoir des Romains. Mais les Romains avaient une conscience. Et Pilate savait qu'il était juste. Je ne trouve aucun crime en cet homme. Et sa femme lui confirme qu'il n'y a rien à faire avec ce juste. Et pourtant, quand Pilate, qui aurait voulu le relâcher, entend la foule excitée par les conducteurs religieux qui crient « Oh, oh !» crucifie-le, et même relâche-nous Barabbas, n'est-ce pas, et crucifie Jésus, ils veulent un brigand pour conduire le monde des saints. Ils acceptent un brigand, mais ils crucifient celui dont les mains ne s'étaient ouvertes que pour bénir et pour guérir. Voilà, à la croix, la manifestation du cœur de l'homme religieux ou de l'homme païen. Quand Pilate entend dire, si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. Oh, mais César, c'est mon patron, c'est mon boss. Alors, pas dans lui avec Rome. Tout Galiléen, c'est sa faute. Alors, il le fait fouetter pour apitoyer, il pense qu'il va apitoyer les gens quand ils verront un Jésus sanglant. Voici l'homme, et c'est au mot, hein, voici l'homme, il le leur présente, après l'avoir battu de vierge. Et on crie encore plus fort, hôte, hôte, crucifie-le, tel homme n'est pas digne de vivre. Et si tu ne le relâches, et si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. Alors il a peur. La crainte des hommes. Et puis là, tout en sachant la vérité se lave les mains de cette affaire. Puisque les Juifs ont dit que son sang soit sur nous, Es-tu mon ventre? J'entraîne avec moi, on me lave les mains. Je suis innocent du sang de Jésus. Voilà comment Jésus a été crucifié. Mais il était livré par les conseils définis de Dieu, et comme nous vous l'avons dit plusieurs fois, pour Jésus, réussir, c'était mort. Pour que son œuvre, que l'œuvre de Dieu soit parfaite, il fallait qu'il meure, qu'il expie les péchés du monde. Et il était venu une première fois, non pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Mais comme le salaire du péché, c'était la mort, il fallait qu'il mourût. Mais comme on ne meurt qu'à cause de nos péchés, comment est-ce qu'un homme, son péché devait mourir? Il a accepté de prendre sur lui nos péchés. Et c'est à cause de nos péchés qu'il est mort. L'être est son péché sur la croix, mais il porte nos péchés. Et Jésus a ainsi expié les péchés du monde. Par la justice d'un seul, dit Paul aux Romains, vous êtes justifiés. Si par la faute d'un seul, tous sont condamnés, à cause d'Adam, par la justice de Jésus-Christ, tous ont été rachetés. Mais si vous ne voulez pas de ce rachat, eh bien, vous êtes perdu. Mais l'œuvre de Christ est une œuvre de salut total pour l'humanité. Le Seigneur ne voulait pas qu'un seul homme périsse. Et il est mort pour tous, pour les plus grands pécheurs. Je pense que s'il y a des perdus, c'est à leur propre responsabilité. Ils n'ont pas voulu. Mais Dieu ne vous force pas. Dieu vous laisse libre. Il ne force personne. Et s'il y a des perdus, il aura fallu qu'ils passent sur le corps de Christ. J'aime à voir cette image du Christ qui est descendu le plus bas possible. Il est descendu au fond de tous les abîmes pour empêcher les gens d'y entrer, s'ils remontent. De sorte que si vous allez vers l'abîme, vous devez passer sur le corps de Christ. Vous aurez foulé aux pieds le Fils de Dieu, vous aurez estimé profane le sang de l'Alliance, le sang d'agneau par lequel vous étiez sanctifié, et vous aurez outragé l'esprit de la grâce. Vous avez ça dans Hébreux 10. Trois choses, alors qu'ils ne sont peu, qui ne peuvent pas être pardonnées. Foulez aux pieds le Fils de Dieu, qui vous arrêtait, qui était descendu plus bas que vous pour vous arrêter, vous le foulez aux pieds, vous méprisez le sang, vous estimez profane le sang qui a coulé. Et voyez-vous, on ne marche pas sur le sang. Hein. Quand il y a du sang répandu sur la rue, vous ne voyez pas les gens patauger dans le sang. On s'écarte. On ne marche pas sur le sang. Eh bien, vous aurez marché sur le sang de qui? Du Fils de Dieu. Vous l'aurez estimé profane. Et puis, l'esprit de la grâce, vous l'aurez outragé, il vous appelait une fois, deux fois, trois fois. Dieu parle une fois, deux fois, trois fois dans votre vie que vous méprisez. Alors, c'est l'endurcissement et c'est vous-même qui aurez la bouche fermée devant Dieu. Dieu ne vous condamnera pas parce que vous êtes né pécheur, mais parce que vous aurez refusé la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a refusé la grâce? Où l'avez-vous accepté? Ou bien pensez-vous, oh mais moi, j'ai pas besoin de la grâce, je suis assez bon. Parce que tu ne te connais pas toi-même. Tu ne t'es pas vu dans la lumière de Dieu. Tous les grands saints, tous les hommes de Dieu de la Bible, les plus extraordinaires, quand ils se sont trouvés dans la présence de Dieu, ils se sont effondrés. Esaïe dit, malheur à moi, je suis perdu. Job peut dire, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, je me repens dans la poussière et dans la cime. Daniel, le plus fidèle, son teint frais se change en corruption. Dans la présence de Dieu, on se voit tel que nous sommes. Et on a vu.
Et si vous n'avez pas eu cette conviction de péché, demandez à Dieu qui vous la donne. Demandez à Dieu, montre-moi ce que je suis à tes yeux. Et vous savez, quand il nous a fait cette grâce de nous montrer ce que nous sommes, eh bien, on sait qu'on a besoin d'un peu. C'est plus une théorie que nous sommes des perdus à cause de nos fautes. C'est tellement vrai, et puis qu'on n'arrive pas à s'en sortir par nous-mêmes. Et que devant Dieu, nous sommes couverts. Mais la grâce, elle est faite pour qui? Qu'est-ce qui a besoin de grâce? Les pécheurs, les condamnés. Les condamnés espèrent sur la grâce, qu'on leur fera grâce. Mais pour pouvoir dire qu'on est gracié, ça veut dire qu'on a été condamné. Mais condamné dans un autre, dans la personne du Christ, sur la croix. Alors, Jésus donc a accompli cette œuvre merveilleuse de rachat de l'humanité. Mais s'il était seulement mort, comment est-ce que nous savons que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus? Il l'a ressuscité des morts. Il est mort pour nos fautes, mais il est ressuscité pour notre justification. Vous avez la certitude que Dieu a accepté le sacrifice de son Fils dans le fait qu'il est ressuscité. Certes, Jésus aurait pu descendre de la croix quand on lui disait, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Ou sauve-toi toi-même. Oui, mais si c'était sauvé lui-même, nous étions perdus. Et c'est pourquoi il dit, il fallait que le Christ souffrit ces choses. C'était une obligation. Il fallait, il convenait qu'il passe par là, parce que sans cela, l'œuvre de Dieu n'était pas accomplie. Or, il est dit que Jésus disait, à cause de ceci, le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour mes proches. Il a donné vraiment sa vie. Alors, voilà le sens profond de la mort de Christ, mais le sens profond de sa résurrection, et c'est ça qui est merveilleux, il est ressuscité, et il est vivant. À la droite de Dieu. Des yeux d'homme, comme ceux de Pierre, l'ont vu avec les autres apôtres, sur le mont des Oliviers, une montagne qu'on peut fouler de nos pieds, ils l'ont vu s'en aller auprès de son Père. Et les paroles qu'il a dites en s'en allant, si je m'en vais, je reviendrai. Alors, il ne peut pas nous avoir menti. Si je m'en vais, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Et ressuscité dans les derniers entretiens qu'il a eus avec ses disciples durant les 40 jours où il s'est manifesté à eux après sa résurrection, il leur a donné ses derniers enseignements et puis il leur a dit qu'en attendant son retour, qu'en attendant l'établissement du royaume, ils avaient à attendre d'abord à Jérusalem l'accomplissement de la promesse du Père. Parce que si vous regardez la vie des disciples de Jésus dans les évangiles, c'était pas très uni, hein. Ils se jalousaient les uns les autres, ils voulaient savoir même la nuit où Jésus fut livré, lequel serait le plus grand. Ils étaient préoccupés d'eux-mêmes, lequel sera le plus grand, alors que Jésus avait donné sa vie. Eux, ils étaient préoccupés de leur situation. Puis ils se jalousaient, Jacques et Jean auraient voulu être assis à la droite et à la gauche, ils n'avaient pas compris qu'on aurait toute la place à ses pieds. Non, il y en a un qui veut être à gauche, puis l'autre qui veut être à droite, alors qu'on a tous notre place aux pieds du Seigneur. Mais après la Pentecôte, qu'est-ce que vous voyez? Ils étaient tous ensemble, unis dans un même lieu. Quand Jésus les a quittés, on leur a dit, attendez la promesse du Père qui va s'accomplir. Le Saint-Esprit, je vous l'enverrai. Mais il fallait qu'il soit glorifié. Une fois glorifié, et c'est là la Pentecôte, et pour nous la preuve que Jésus est bien arrivé où il devait être, auprès du Père. Et quand il est arrivé, glorieux auprès du Père, il nous a envoyé la promesse du Père qui s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Comme la Pentecôte s'accomplissait ce jour-là, eh bien, le Saint-Esprit est tombé sur ces 120 qui étaient des individus isolés et qui ont formé désormais un seul corps.
C'est ce baptême du Saint-Esprit qui a formé le corps de Christ. Ce ne sont plus des individus isolés, c'est un corps. Et c'est ça le troisième groupe. Et c'est ça la naissance de l'Église. Alors, vous avez lu un premier texte qui est dans Matthieu et qui vous montre bien que l'Église est quelque chose de nouveau et non pas simplement la continuation, comme on le dit dans une certaine théologie, la continuation de l'Israël de l'Ancien Testament. L'Église est un peuple nouveau. Jésus dit au chapitre 16 de Matthieu, il demande d'abord à ses disciples qui sont allés annoncer l'Évangile dans les villes d'Israël, « Qu'est-ce que vous avez entendu à mon sujet ? Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Alors, verset 14, ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Et c'est là que Simon Pierre fait cette magnifique confession, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors, Jésus lui dit, reprenant la parole, il dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Tu n'as pas trouvé ça tout seul. » Là, il a vraiment parlé, comme on dit, ex cathedra. Hein. C'est une parole infaillible. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a parlé par une révélation du Père. Alors, sa bouche a donné une déclaration extraordinaire. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est sur cette confession qu'est bâtie l'Église. La confession de Pierre que le Christ est le Fils du Dieu vivant. Alors, il est dit, « Et moi je te dis, verset 18, que tu es Pierre, et que sur ce, littéralement sur ce roc, n'est-ce pas, sur ce roc, et quel est ce roc ? C'est la confession de Pierre. Ce que Pierre vient de dire qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est sur ce roc que je bâtirai mon Église. » Alors évidemment, il y en a qui disent, mais non, mais il a dit sur Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il faut avoir été là aux sources du Jourdain où ces paroles ont été dites et on voit ces immenses rochers et Jésus illustrait toujours sa prédication par des exemples. Il y a là des grands rochers. Hein. Eh bien, c'est cette confession de Pierre à Césarée de Philippe, eh bien, c'est la base de l'Église. La meilleure façon de se demander, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? J'ai discuté avec des prêtres. Je me souviens, j'avais 19 ans quand j'étais la première fois en face d'un moine dans l'abbaye de Saint-Maurice en Suisse, c'était bien loin du Canada, mais j'allais évangéliser le pays du Valais, qui était un pays catholique, un canton catholique, mais je faisais ça d'une façon ouverte. Quel était mon désir? Leur apporter la Bible à ces gens-là. Ou les évangiles. Alors j'avais des évangiles crampons qui avaient l'imprimature, parce que ce temps-là, il fallait l'imprimature. J'avais ma petite valise pleine d'évangiles que j'allais donner. Mais je voulais pas qu'on les brûle. Alors pour qu'on ne les brûle pas, je me disais, il faut aller chez les supérieurs qui était là à l'entrée du Valais, la grande abbaye de Saint-Maurice avec l'évêque de Bethléem, qui s'appelle l'évêque de Bethléem. Et j'ai eu un rendez-vous avec un des chanoines de Saint-Maurice. Et justement, il m'a introduit dans sa cellule et je lui ai dit, voilà ce que je vais faire. On m'a dit, ben écoutez, hein, moi je veux bien qu'on réponde l'évangile, mais est-ce que vous n'allez pas amener du trou, parce que vous n'êtes pas romain, vous êtes protestant, puis vous voyez le protestantisme, ben, il interprète la Bible comme il veut. Je dis pas du tout, il n'interprète pas la Bible comme je veux, nous avons des règles, c'est le Saint-Esprit qui interprète la Bible. Mais il me dit, mais vous ne croyez pas que moi j'ai le Saint-Esprit? Je dis, je veux bien le croire, oui. Eh bien moi, je vais vous dire ce que le Saint-Esprit me dit dans le texte, puis vous me direz aussi ce que le Saint-Esprit vous dit. Alors, on verra si nous sommes d'accord. Mais il me tendait là un piège. Alors il a dit, prenons ce texte. Mais toi tu es Pierre. c'est il y a longtemps cela, hein. Vous savez, ça a changé depuis aussi, on discute tellement cela. Mais il me dit, mais écoutez, oui, c'est trop rabâché ça qu'il dit. Mais prenons seulement Il dit, ça doit être dans le 19 de Matthieu. J'ai dit, non, c'est dans le 16. Non, vous connaissez mieux ma, votre Bible que moi. J'ai dit, non, mais c'est dans le 16 ce que vous dites. Et il me dit, qui disent les hommes que je suis, moi, le fils de l'homme? Qu'est-ce que Jésus a voulu dire, moi, le fils de l'homme? Alors, j'ai dit, bien, je vous fais remarquer qu'on ne doit pas sortir un verset de son contexte. Et quand il dit, moi, le fils de l'homme, il insiste seulement sur son humanité, mais il est le fils de Dieu. Qui c'est? Il était en condition divine, alors je cite Philippiens 2, et il s'est anéanti, vidé lui-même, n'est-ce pas, comme littéralement, il s'est anéanti lui-même, et il a été trouvé ici-bas en figure comme un homme, mais il était réellement le fils unique et éternel de Dieu. Il est Dieu, mais il s'est fait homme. Il dit, très bien, très bien. Et moi, je dirais que le Saint-Esprit me dit, fils de l'homme, fils de Joseph. Un professeur d'exégèse catholique qui me disait ça, que ça voulait dire fils de Joseph. J'ai dit, monsieur, je suis plus catholique que vous. Parce que vous êtes un hérétique. Si vous ne croyez pas que Jésus est le fils de Dieu, vous n'êtes pas catholique. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours cru que l'Église catholique enseignait encore la divinité de Jésus-Christ. Que de fois mon père disait, heureusement qu'il y a encore l'Église catholique pour maintenir les dernières vérités. Parce que le protestantisme niait souvent la divinité essentielle de Jésus-Christ. Il disait qu'il était devenu fils de Dieu au baptême, hein, qu'il avait reçu mission pour être fils de Dieu, mais qu'il n'était pas de son essence fils de Dieu. Voilà pourquoi mon père n'a pas voulu que je fasse la théologie protestante. Parce qu'à ce moment-là, le protestantisme était tombé dans le rationalisme. Et mon père me disait, j'aimerais mieux que tu sois ramoneur, puis qu'aller au ciel, plutôt que tu aies un grand titre universitaire, tu sois perdu. Ah, je m'en souviens, ça, de mon père. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un bon sourire, il m'a tapé sur l'épaule, puis il m'a dit, bien sûr que le Saint-Esprit vous a inspiré, c'est vrai ce que vous avez dit. Nous sommes d'accord. Mais je vous ai piégé parce que, je voulais vous dire, c'est un ours qui ne connaît pas la Bible comme vous, il aurait pu dire fils de l'homme, fils de Joseph. Donc il faut le magistère de l'Église pour expliquer les textes. Voilà comment il s'en est sorti. Mais seulement... Non, mais c'était drôle. Moi, j'avais 19 ans, lui, il était âgé, hein. Il m'a quand même reconduit. Puis, il avait un... Il m'a dit, oh, vous savez, j'admire votre courage parce que vous allez avoir des ennuis. Parce qu'on va pas vous comprendre. Mais c'est quand même très bien ce que vous faites. J'avais 3 encycliques de papes qui disaient, il faut donner la Bible au peuple. Il y avait Pie XII, il y avait... Benoît XV, et puis encore un autre. Puis on... Alors, je les avais dans ma petite valise, les encycliques du pape. Si nous ne donnons pas la Bible au peuple, qu'est-ce qu'ils prendront? Karl Marx. C'était juste avant le concile, mais on sentait qu'il fallait donner la Bible. Alors, au fond, il était content de ce que j'allais faire. Je n'allais pas faire mon catholicisme. Mais, vous comprenez que c'est un combat, et que c'est pas facile. Et qu'il faut dire, mais alors je l'entends toujours quand il m'a accompagné, il m'a dit, je ne regrette qu'une chose, vous priez une si belle âme dans votre église. Oh. Mais c'est pour dire, il y a des combats. Mais vous voyez, j'étais à Jérusalem, et un jour j'ai passé tout un après-midi dans la bibliothèque catholique de l'église de Saint-Étienne chez les Dominicains. J'ai regardé tous les commentaires qu'ils avaient sur ce texte. Tu es Pierre et sur texte Pierre. Et même, je l'ai à la maison, dans les verbum salutis qui sont faits aussi par les catholiques, ils disent, nous savons bien avant l'hérésie protestante que la Pierre dont il est question n'est pas l'apôtre, mais le Christ lui-même. C'est dit en toute lettre. Donc théologiquement, on est d'accord. C'est la confession de Pierre, c'est Christ qui est le roc. Mais alors, ils ajoutent, mais Jésus pouvait bien se choisir à côté de lui une pierre, l'apôtre Pierre. Mais pour le peuple, c'est l'église de Pierre. Mais Pierre n'est qu'une pierre sur l'édifice. Comprenez-vous? La pierre angulaire. Alors, il n'y a qu'à demander à Pierre comment est-ce qu'il a compris ça. Puisqu'il a écrit une lettre, Pierre, hein.
Alors vous prenez l'épître de Pierre, deuxième, premier épître de Pierre, au chapitre 2, il dit, c'est lui qui est la pierre méprisée par ceux qui baptisaient. Vous voyez, dans nos combats avec des théologiens, il faut toujours en revenir à la parole et mettre la parole sous leurs yeux. Comment Pierre a-t-il compris? Il dit, c'est lui qui est la pierre. Et chaque croyant devient une pierre dans l'édifice. Les apôtres sont les premières pierres sur la pierre. Mais le fondement qui est posé, c'est Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Et prenez le livre des Actes, au chapitre 4. Quand Pierre est devant le Sanhédrin, il dit, il n'y a de salut en autre qu'un autre, il n'y a pas d'autre nom qui soit donné parmi les hommes sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Et le verset précédent, verset 11, il dit, c'est lui qui est la pierre. Donc, il n'y a pas de discussion possible. Théologiquement, nous sommes d'accord. Alors, il faut retrouver ces vérités pour les mettre en valeur. Mais nous sommes d'accord que l'Église soit l'Église de Pierre. Bien sûr qu'elle est une pierre. Alors, je fais partie aussi de l'Église de Pierre, hein, parce que Pierre est une pierre. Dans l'Église, je fais aussi partie de l'Église de Paul, parce que Paul est aussi une pierre dans l'édifice. Alors, retrouvons nos origines. Mais Jésus dit, je bâtirai mon l'église, il dit pas qu'elle est bâtie, qu'il la bâtira. Et alors, cette bâtisse ne pouvait avoir lieu qu'après sa mort et sa résurrection par le don du Saint-Esprit et qui a formé en un seul corps ces hommes qui avant étaient isolés mais qui sont devenus maintenant un corps. Donc un organisme, non pas une organisation ecclésiastique, mais un organisme dont Christ est la tête et dont chaque croyant est un membre qui possède la vie de la tête. Et au chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, il est dit ceci, au verset 11 du chapitre 12, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut, parlant des dons, du verset 12, car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Le Christ, maintenant, le Christ total, c'est la tête et le corps. Et c'est ça qui est merveilleux. Nous formons le corps de Christ. Alors, à quel moment est-ce que vous trouvez le mot église? Dans le chapitre 18 de Matthieu, il le dit aussi, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux, puis après il parle de l'église, mais qui sera donc bâtie. Et alors, dans les Actes, vous avez lu au chapitre 2, comment s'est passée la Pentecôte? Et après la prédication de l'apôtre Pierre, qui a vraiment été celui qui a ouvert le royaume des cieux? Parce qu'il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alors ne fais pas de Pierre un pauvre portier du ciel. Pierre a déjà employé les clés. Quand il a prêché l'évangile, c'est lui, le renégat, lui qui avait renié le Seigneur, mais qui a été restauré d'une façon merveilleuse au bord du lac de Tibériade. Le Seigneur lui a dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Et c'est lui qui a été employé le jour de la Pentecôte pour prêcher l'évangile à tous ces juifs qui étaient venus de toutes les nations de la terre. Ils venaient le culte à Jérusalem. Et ils ont eu l'occasion d'entendre dans leur propre langue les choses magnifiques de Dieu. Le don des langues a été donné, mais il n'y avait pas besoin de traduire. Chacun comprenait dans sa propre langue les louanges du Seigneur. Les choses magnifiques de Dieu qui étaient dites par les 120. Parce que le Saint-Esprit est tombé sur tous. Hein. Il n'y a pas eu une sélection, quelques-uns. Les 120 qui étaient réunis ont tous été baptisés du
Saint-Esprit pour former un seul corps. Mais quand il a fallu parler au peuple, qui a été employé? L'apôtre Pierre. Selon la promesse que Jésus lui avait faite, je te donne les clés du royaume des cieux. Et il a ouvert la porte aux Juifs, parce que les Juifs, quand ils ont entendu l'apôtre Pierre, je ne vais pas vous lire, parce qu'on me dira encore que j'ai galopé, mais je ne vais pas galoper sur les Écritures, mais j'essaie de vous en donner le plus possible. Peut-être que c'est trop. Quand je m'en humilie. Mais, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Qu'est-ce qu'il reprend comme message? Le message de Jean-Baptiste et le message de Jésus du commencement. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur en n'appellera. Donc vous êtes dans ce nombre, il vous a appelé. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait en leur disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça, c'est ce qui se passait dans cette communauté. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils allaient encore au temple de Jérusalem, ils rompaient le pain dans leur maison, c'était l'Eucharistie, la fraction du pain, comme Jésus leur avait enseigné, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple, et le Seigneur ajoutait qui? Chaque jour. À quoi? À l'Église. L'Église est là maintenant. Comprenez-vous? Le peuple est là. L'Église, c'est le nouveau peuple que l'on trouve maintenant. L'Église est fondée. Elle est là. Et qui est-ce qui ajoute à l'Église? C'est le Seigneur. Parce que vraiment, c'est pas le prédicateur qui ajoute à l'Église. C'est le Seigneur. Quand il a fait son œuvre dans un cœur, eh bien, vous n'êtes pas laissé seul, mais vous êtes ajouté à l'Église. Il ajoutait à l'Église tout ce qui devait être sauvé. Puis alors vous trouvez le mot église plusieurs fois dans l'écriture. Et pour vous montrer que c'est vrai ce que je vous disais au sujet du troisième peuple, eh bien, là, il n'y avait encore que les juifs convertis. Comprenez, les premières pierres ont été des pierres tirées d'Israël. Mais ils étaient sauvés du peuple d'Israël. Mais ils ont tout de suite été persécutés par la religion juive, n'est-ce pas? Vous savez que Pierre et les gens ont dû passer au tribunal, etc. Ils ont été battus, on les a rejetés. Mais Dieu avait encore une autre pensée. Il avait dans la vision qu'il voulait pour le monde, c'était de sauver les païens. Et qui irait chez les païens? Vous savez que pour un juif, c'était interdit d'aller chez les païens. Et à un moment donné, Jésus avait interdit à ses disciples d'aller eux-mêmes en Samarie et chez les païens. Mais ne prêcher l'évangile qu'aux brebis perdues d'Israël. Parce qu'ils n'étaient pas du tout prêts pour évangéliser les païens. S'il y avait une résistance, ils se seraient bagarrés. Ils n'étaient pas prêts pour aller prêcher chez les païens. Alors Jésus leur interdit parce que au lieu d'aller faire des dégâts chez les païens, il est mieux qu'ils aillent seulement chez les brebis perdues d'Israël. À un moment donné, quand l'heure viendra, les païens pourront entendre l'évangile. Et qui est-ce qui va être employé d'abord pour annoncer l'évangile? C'est de nouveau Pierre. Mais ce pauvre Pierre, il refuse. Il est là en prière à Césarée Maritime, et puis tout d'un coup, il a faim. Alors il commande qu'on lui fasse à manger, et pendant qu'on lui préparait le dîner, voilà qu'il a une vision. Ça peut arriver à midi, hein, une vision. Et voilà qu'il voit une nappe qui descend du ciel.
Il vient d'où? Du jardin zoologique? Du ciel. Tous des animaux qui sont là dans cette nappe. Et puis il entend une voix qui lui dit, tu es mange. Il dit, mais jamais, Seigneur, il y a des animaux impurs là-dedans, jamais un animal impur est entré dans ma tête. Et par trois fois, la vision se répète. Alors il est très perplexe. Et voilà que, à la fin de sa perplexité, on frappe à la porte en bas. Qui est? Ce sont des païens qui sont venus depuis Césarée Maritime, qui sont venus à Jopé. C'était à Jopé qu'il était fier. Ils ont fait tout le trajet. Pour quelle raison? Parce qu'un certain homme Corneille, qui était un centurion romain, un officier, mais qui était pieux, qui voit tout à coup un ange entrer chez lui, et qui lui dit, Corneille, tes prières ont été entendues et été exaucées. Va à César, à Jopé, trouver un certain homme qui s'appelle Pierre. Il habite chez Simon le corroyeur, dont la maison est au bord de la mer. Moi, je trouve les adresses divines merveilleuses. Vous avez fait plus de la peine à trouver le manoir de Louville. Mais les trois hommes qui sont partis de Césarée, ils savaient que la maison où était l'apôtre Pierre était chez un certain Simon le corroyeur et que cette maison était au bord de la mer. Alors ils n'ont pas été dans les collines, ils ont été tout de suite au bord de la mer. Et ils sont là qui frappent. Et puis alors Pierre demande ce qu'ils veulent. Mais voilà, Corneille a eu une vision et puis il nous a envoyé. Moi je trouve que c'est très beau ces serviteurs hein, qui sont d'accord avec leur patron et qui vont chercher Pierre. Puis alors Pierre tout d'un coup comprend qu'il doit y aller. Mais il a fallu qu'il ait cette vision, toute une préparation. Et alors ils s'embarquent, ils s'en vont. Puis il arrive là-bas, puis qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un Corneille qui a rassemblé dans sa maison tous ses amis. Moi je trouve que ça c'est merveilleux. Il ne connaît pas encore Pierre, mais il a obéi. Ses envoyés reviennent, et Pierre est là. Et puis, alors Pierre est tout étonné, voir tout ce monde. Il pensait voir qu'un homme, il voit tout cette chose. Et puis, vous connaissez le chapitre 10 des Actes. Je n'ai pas de nouveau galopé, mais je vous le dis, c'est dans le chapitre 10 des Actes, vous avez tout dit. Et voilà que Corneille lui dit, tu as bien fait de venir. Tu as bien fait de venir. Puis il dit, mais vous savez que c'est pas permis à un juif de venir chez les païens. Mais Dieu m'a appris à ne considérer aucun homme comme un juste pécheur. Dieu m'a appris. Vous voyez qu'on apprend encore. Il avait été 3 ans à l'école de Jésus, puis il avait dû encore apprendre quelque chose. On n'a jamais fini d'apprendre. Parce que lui-même ne serait pas venu. Que la loi juive le lui interdisait. Mais Dieu m'a appris. Et alors, Corneille lui dit, eh bien maintenant nous sommes tous là pour écouter ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. Non, dis donc, Pierre, il ne doit pas dire ce qu'il y a dans son cœur, il doit dire ce que Dieu lui a ordonné. Donc il faut qu'il soit inspiré. Puis il commence, vous connaissez l'événement qui s'est passé quand même, on sait qu'il y a eu un Jésus, etc. Puis pendant qu'il leur parle, tout simplement comme ça, ce Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien, le Saint-Esprit tombe sur l'auditoire, puis se met à parler en langue. Ils ont les mêmes signes qu'ils ont eus à Jérusalem. Pierre a ouvert la porte aux païens. Voilà le pouvoir des clés. Comprenez-vous? C'est pas un pauvre portier qui ouvre de temps en temps la porte. Qu'est-ce que tu veux, là? Tu vas aller au purgatoire ou bien tu vas aller au... Vous connaissez toute cette imagerie. Vous devez purifier, némétiser de tout ce bazar-là. Pia, c'est loin, ça. C'est la parole qui nous donne la vérité. Ce ne sont pas des fables, dit Pierre. Il sait ce qu'il dit. Il a passé par là. Mais quand il va rentrer à Jérusalem, après que ces gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, avant d'être baptisés d'eau, hein, ça c'est encore, il a tous les moyens, il peut changer les choses, Mais voilà comment Pierre retourne à Jérusalem, puis se fait attraper par ses collègues, par le collège de Jérusalem, qui lui dit « Comment tu es entré chez les païens, tu as parlé avec eux, etc. » Puis Pierre, il doit leur accepter tous ses reproches, puis il leur raconte comment ça s'est fait. « Mais je ne voulais pas y aller. Mais voilà, j'ai eu cette vision, puis j'ai dû y aller. » Et alors, quand ils entendent tout cela, ils disent « Eh bien alors, c'est que Dieu a donné la repentance aussi aux païens, mais vous voyez que les Juifs devaient apprendre quelque chose, que les païens aussi pouvaient hériter du royaume de Dieu, pouvaient aussi avoir une entrée dans le royaume de Dieu. Alors, c'est ça, ce peuple nouveau, qui sera formé des Juifs convertis et des païens qui se convertissent au christianisme et qui deviennent un seul corps. Il n'y a plus ni Juifs, ni Grec, dans ce peuple qu'est l'église de Dieu, la muraille qui les séparait est tombée, ils sont un seul cœur. Et pour que l'œuvre de cette église se continue, Dieu va choisir un homme opposé aux chrétiens pour en faire son grand ambassadeur parmi les païens, c'est qui? Saul de Tarse, qui était connu par Dieu dès qu'il était dans le ventre de sa mère. Hein? Voilà pour l'avortement. Si sa mère avait avorté, il n'y aurait pas eu de Saul de Tarse. Voilà, il n'a pas avorté. Et ce Saul de Tarse est devenu un érudit, un homme très capable, instruit au pied de Gamaliel, mais il n'avait pas connu le Seigneur. Et il voyait sa religion bien, bien religieux, il voyait sa religion menacée, et il était très sincère. Alors il persécutait les chrétiens, il était d'accord avec la mort d'Étienne, il a gardé les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne, vous connaissez tout cela dans les actes, hein. Et je vous remémore simplement ces choses. Et non content d'avoir mis la persécution dans Jérusalem, il demande au souverain sacrificateur des lettres de recommandation pour aller à Damas. On en parle souvent de Damas, hein, aujourd'hui. Il va à Damas, et sur le chemin de Damas, pour arrêter les chrétiens, voilà qu'il est terrassé. À quelle heure? Midi. À midi. Et qu'est-ce qu'il entend? Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et c'est là qu'il a eu cette révélation extraordinaire qu'en touchant un membre du christianisme, des disciples de Jésus, il touchait Jésus lui-même. Je suis Jésus que tu persécutes. Saul de Tarse n'avait pas persécuté Jésus, il l'a pas connu selon la chair. Mais quand il apprend qu'il touche un chrétien, un disciple du Christ, il touche le Christ lui-même. Et c'est ça la révélation de Paul, le peuple de Dieu. Et il apprend qu'il est choisi d'avance pour devenir celui qui va prêcher l'évangile aux nations. Et vous arrivez donc à ce chapitre 15. Il revient après avoir prêché l'évangile avec Barnabas, il revient à Jérusalem pour le premier concile qu'il y a eu à Jérusalem, le concile de Jérusalem, parce que des croyants juifs étaient venus à Antioche, où il y avait une église, qui avait été fondée par Paul et Barnabas, et ces juifs de Jérusalem venaient apporter du trouble en disant, pour être vraiment sauvé, il faut être circoncis. Alors, ça a fait du trouble, ils sont montés à Jérusalem pour savoir ce que les anciens en pensaient. Alors, ils se sont réunis pour examiner cette affaire, il y a eu une grande discussion. Et alors, verset 7, Pierre se leva, chapitre 15. Vous voyez qu'il a une place tout à fait particulière, Pierre est le premier des apôtres. Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. » Ça, ça est arrivé à Césarée, hein? Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. C'est ce qui était arrivé, donc c'est un fait. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le coup des disciples un joug que ni vous ni nos pères n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Est-ce que vous croyez? De même que... Alors toute l'assemblée garda le silence et on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu faisait par eux au milieu des païens. Verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques, qui était un frère du Seigneur, prit la parole et dit, « Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté des regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. » Voilà l'Église, hein. Et c'est Jacques qui dit cela. Vous comprenez maintenant, après ce que Pierre a dit, Dieu a choisi du milieu des nations un peuple qui porte son nom. Il y a donc toujours les nations, mais des nations, ceux qui croient, deviennent un peuple au milieu des nations qui porte son nom. Et dans ce peuple, il y a aussi des Juifs qui ont cru. De sorte qu'il n'y a plus ni juif ni grec dans l'Église, mais un peuple qui porte son nom, et c'est ce que vous avez trouvé dans 1 Corinthiens que je vous ai lu au chapitre 10. Ne soyez pas en scandale, ni aux juifs, ni aux grecs, ni à l'Église de Dieu. Si dans l'Ancien Testament il y avait deux groupes, maintenant il y en a trois. Mais l'Église, alors, plus vous continuerez vos lectures, vous voyez que l'Église a une vocation céleste. Le peuple d'Israël avait une vocation terrestre. Ses bénédictions étaient terrestres. Tandis que l'Église, nous n'avons pas à nous attendre à des bénédictions terrestres, mais à des bénédictions célestes. Nous avons reçu un appel céleste. Vous êtes d'en haut, votre patrie est dans les cieux. La vocation de l'Église, c'est d'être un peuple céleste. Mais, hélas, ce qui est arrivé après la mort des apôtres, sans que les apôtres ont été persécutés, ils attendaient le Seigneur, ils sont morts, le Seigneur n'est pas encore venu. Mais tout à coup, à la conversion, ou la soi-disant conversion de Constantin, l'empereur romain, il avait eu, semble-t-il, une vision, quand il y avait la guerre, il avait vu une croix, et il avait entendu une voix qui disait, c'est par ce signe que tu vaincras. Et comme il a vaincu, il a imposé la religion chrétienne à tous les états romains. De sorte que désormais, le christianisme n'était plus persécuté, mais devenait la religion de l'état. Et c'est là que ça a foiré. N'est-ce pas, que la corruption est entrée dans l'Église et qu'on a commencé toute cette hiérarchie copiant sur l'Empire romain et que s'est élevée cette hiérarchie qui allait dominer et que l'Église s'est dit être le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu sur la terre. Alors il n'y a pas besoin d'attendre autre chose. C'est l'Église qui prend toutes les responsabilités, c'est l'Église qui avait presque le pouvoir séculier, ou en tout cas qui était associée au pouvoir séculier, on pouvait faire mourir les ce qu'on disait être hérétiques, alors que Jésus, justement, avait montré, alors là, vous deviez revenir au chapitre 13, cette histoire du royaume en mystère. L'Évangile serait annoncé sur 4 terrains, parabole du semeur, il y en a un qui produit. La deuxième parabole, c'est pas que le monde va se convertir, c'est la parabole de l'ivraie. On constate tout à coup que dans le bon grain, que dans le champ du monde, le champ c'est le monde, c'est Jésus qui l'explique lui-même, prenez le 13 de Matthieu, le champ c'est le monde, eh bien, on constate qu'il y a l'ivraie qui a été semée. Et les disciples demandent au maître, ce qu'ils doivent faire, est-ce que nous devons arracher l'ivraie? Et qu'est-ce que le maître dit? Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous arrachez le bon grain. Et c'est justement ce qu'on a fait. L'Église, en voulant arracher les hérétiques, eh bien, elle brûlait les croyants. bien souvent. Puis après, on les canonise, hein. Parce qu'on voit qu'on s'est trompé. Jeanne d'Arc, on l'a brûlée, puis après, on l'a canonisée. Bon, je ne vais pas entrer dans ces histoires-là. Mais enfin, vous voyez, livrer, laisser les croître, les deux ensemble, jusqu'au temps de la moisson, jusqu'au temps de la récolte. Et qui est-ce qui fera le triage? Ce sont les anges, c'est pas les hommes, parce que nous, nous pourrions nous tromper. Et nous nous trompons toujours. Mais donc, il n'y a pas la conversion du monde, puisqu'il y aura livré jusqu'à la fin. Jusqu'au temps de la moisson, dans le champ du monde, il y aura des vrais et des faux chrétiens. Comprenez-vous? Et c'est là que vous pouvez rejoindre la parabole des dix vierges. Elles ont toutes le nom de vierges, elles ont toutes le nom de chrétiens, elles ont toutes la même apparence, elles ont toutes des lampes, mais dans les lampes des unes, il y a de l'huile, tandis que dans les autres, il n'y a pas de réserve, n'est-ce pas? C'est une forme. On a tous la forme du christianisme. Quand on vous demande quelle est votre religion, on est chrétien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'on est vraiment, est-ce que l'on a la vie, est-ce qu'on a l'huile qui représente le Saint-Esprit en nous? Est-ce qu'on est habité? Alors, c'est le Seigneur qui connaît ceux qui lui appartiennent. Puis, il a donné une troisième image du royaume en mystère. C'était une petite semence. Ça a commencé très petitement, le christianisme. Mais ça est devenu un grand arbre. Alors, c'est ce progrès rapide du christianisme qui était une petite semence, puis qui, tout d'un coup, devient un grand arbre, et dans les branches duquel viennent se loger toute espèce d'oiseaux. Impur. C'est la corruption qui est entrée dans l'Église. Puis après, alors, vous avez les autres paraboles, la parabole du levain. Alors, on vous dit, mais le levain, c'est l'Évangile qui fait lever toute la pâte. Si vous prenez les textes tels qu'ils sont, le levain, qu'est-ce que c'est en lui-même? C'est un élément de corruption et qui a été mis dans la pâte pure de l'Évangile et ça a levé. Oui, ça a fait une grande Église, si vous voulez. Mais qu'est-ce qui reste? L'Église s'en va chez le diable, vous l'avez vu? Ce sont les catholiques qui ont écrit ça. Qui s'en rendent compte que ça ne va pas. Alors, qu'est-ce que l'Église, il nous faut retrouver les bases. Le Père Michalon m'écrivait hier depuis Lyon, il nous faut revenir aux bases. Et lui qui est le président de l'œcuménisme, il en doute maintenant. Il faut revenir aux bases. Mais oui, mais c'est ça. Revenir aux bases. Et savoir se parler les uns aux autres. Et dire, on peut être d'accord si on a la parole de Dieu. Mais si chacun y va avec sa théorie, eh bien, c'est la division. Eh bien, que le Seigneur nous donne d'aimer assez la parole pour communiquer cette parole, et puis retrouver vraiment là ce qu'est l'Église. Et dans les Éphésiens, ce texte que vous avez lu, à quoi est comparée l'Église? J'ai trouvé une Bible un jour dans ma bibliothèque, c'était un pasteur qui l'avait, un pasteur protestant, libéral, il avait dit c'est tout cela. Il était mis dans la mare faux. Femme, que chacune soit soumise à son mari, faux. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Qui est le chef de l'Église? C'est Christ. Hein? L'Église qui est son corps. Et je trouve que c'est merveilleux que ce soit comparé à un mariage. L'Église qui est son corps, et donc il est le sauveur. Qui est le sauveur de l'Église? C'est Christ qui l'a fondé. Or, de même que l'Église est soumise à qui? À Christ. Notre soumission, elle doit être au Christ. Les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Mais que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est extraordinaire. Hein? Qui s'est livré lui-même pour elle. Ça va loin, hein, la responsabilité d'un homme vis-à-vis de sa femme. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Vous voyez, je vous ai dit que l'eau était la parole. Qu'est-ce qui lave, qu'est-ce qui purifie? C'est l'eau de la parole. Quand vous lisez la parole, c'est comme si vous preniez un bain.
Mais je vous dis pas, ne faites que lire la parole, si vous prenez pas de bain. C'est un sérieux mauvais. Et quand on est au Seigneur, on est propre. Il y a des gens qui ne peuvent plus vivre dans certaines églises parce que ça pue. Et qu'est-ce que c'est qui pue? L'eau, c'est hein, l'odeur corporelle. Quand on est chrétien, on se lave. Mais ça ne nous empêche pas, en même temps, de lire la parole. Quand on est dans son bain, on peut penser encore à la parole. Moi, j'ai reçu des messages dans mon bain. Sous la douche. C'est vrai, il veut nous parler partout. Pour faire paraître devant lui son église, comment? Glorieuse. Sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà l'exemple que nous avons. Alors que Dieu nous donne de savoir que nous avons une vocation céleste. Et voyez-vous, alors, si vous lisez le chapitre 3 des Éphésiens, vous verrez que, justement, l'Église, c'est un peuple nouveau, et c'est Paul qui a reçu la révélation de ce mystère. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ, pour vous, les païens, si vous avez appris comment je sépare de la grâce que Dieu m'a confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Et ce mystère, c'est le mystère de l'Église. De sorte que nous pouvons croire à ce mystère. Et alors à la vocation céleste de l'Église. Et nous avons à affermir notre vocation céleste. Chapitre 4 des Éphésiens, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Puis dans les Colossiens, c'est la même chose. Et alors, la fin de cette église, ce n'est pas de triompher sur la terre, c'est d'être enlevé au ciel avant la grande tribulation dont nous parlerons demain. Et qui va nous introduire aussi sur ce que Dieu attend aussi pour Israël. Est-ce que l'histoire d'Israël est terminée?
Non.
L'histoire d'Israël n'est pas terminée. Et Dieu va reprendre ses relations avec Israël, ce qui n'est pas encore le cas maintenant. Hein, parce qu'Israël est dans l'incrédulité comme peuple. Il y a des gens qui sont croyants, mais comme peuple, la nation est encore dans l'incrédulité. Et c'est par les tribulations que ce peuple va se souvenir de son Messie, qu'il va tourner les yeux vers celui qu'il a percé, et comme il l'était dit dans Zacharie. Alors mes amis, je vous demande de ne pas confondre, de ne pas faire une interprétation particulière de la prophétie. La parole prophétique est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Il y a des obscurités, mais si vous voulez connaître ce qu'est l'Église, lisez la parole. C'est un peuple céleste qui attend la réalisation de la promesse de Jésus, qui ne peut mentir, qui a dit « Je reviendrai et je vous prendrai auprès » de moi. Et la vie sur la terre va continuer. Et nous allons voir ce qui va se passer. Et nous voyons aujourd'hui, tout est en préparation. Mais notre bienheureuse espérance, nous nous sommes tournés vers le Seigneur, 1 Thessaloniciens 1, verset 10, convertis au Seigneur, détournés des idoles, convertis au Seigneur pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre des cieux son Fils Jésus, qui nous plongera dans la colère à venir, qui nous délivre de la colère à venir. Vous n'êtes pas destiné à la colère, mais à la vie éternelle. Et c'est alors que se place la résurrection des morts en Christ, qui sont ressuscités premièrement, et nous, les vivants qui demeurons, nous sommes ravis avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et alors, nous reviendrons avec le Seigneur pour établir son règne sur la terre. Et c'est de ce règne que vous parle cette petite brochure. Il y a des textes et je vous ai demandé si vous avez le temps de consulter un peu, vous la prenez avec vous, mais si vous pouvez la lire un peu avant de vous endormir ou demain matin, bien lisez ces textes et vous me direz, est-ce qu'ils ont été accomplis ou est-ce qu'ils sont à accomplir? N'est-ce pas? Comme toutes les prophéties concernant la première venue du Seigneur se sont accomplies, nous croyons que ce n'est pas symbolique, ces textes, mais qu'elles auront, et ils auront leur accomplissement. Et quand on nous parle tellement de l'environnement et de cet empoisonnement, n'est-ce pas, oui, tout ce que vous voulez. Enfin, nous savons que le monde est empesté, n'est-ce pas, partout, les arbres, tout ça. Eh bien, il est dit que toute la création est dans un état de souffrance, qu'elle a été asservie, qu'elle est dans la servitude. Et qu'est-ce qu'elle attend? La libération. Et que cette libération aura lieu à la manifestation de la gloire des enfants de Dieu. Et quand est-ce que cette manifestation de la gloire des enfants de Dieu aura lieu? Quand Jésus revient, nous sommes avec lui, nous sommes en lui. Son Église est parfaite, totale. Et si vous avez souffert avec lui, vous régnerez avec lui. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander que ce soit vraiment ton esprit qui soit notre mémoire et qui nous rappelle ces grandes lignes, ces jalons que nous avons essayé de donner, mais qui se trouvent dans ta parole, et qui ne sont pas une interprétation particulière, mais qui corroborent tout ce que nous dit ta parole, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et nous voulons te demander que nous soyons de ceux qui prennent goût à ta parole, comme Saint-Exupéry disait qu'il avait le goût de l'éternité. Bien que nous aussi, nous ayons ce goût de l'éternité, ce goût de ta parole qui seule nous révèle ces choses merveilleuses, afin que nous ne soyons pas désemparés par la situation présente, mais nous ne voulons pas l'oublier et nous voulons te recommander tous ceux qui sont dans l'angoisse, qui souffrent aujourd'hui dans ces pays en guerre. Nous te demandons d'intervenir encore, tu veux encore accorder un temps de grâce. Tu peux le faire, mais nous savons que ces choses doivent arriver et que tout est en préparation, mais que nos cœurs, au moins, soient prêts pour ta venue, même si elle venait ce soir, parce qu'un jour, tu seras venu et tu auras enlevé les tiens, comme tu as enlevé Enoch, comme tu as enlevé Élie, comme Jésus lui-même a été enlevé dans le ciel et qui est un exemple de notre propre enlèvement, que nous soyons prêts à tout quitter, et avec joie, parce que nous t'aimons, et parce que nous savons que tu nous voudrais avec toi, dans ta gloire. Qu'il en soit ainsi, pour chacun de nous, en ton nom et en ton amour. Jésus. Amen. Bien voilà, demain matin, nous avons le même programme. À 7h, le réveil musical, puis le rassemblement silencieux ici, avec une dernière parole, le petit déjeuner à 8h. Eh bien, chers amis, une fois encore, nous aimons à vous saluer au nom du Seigneur, en espérant que vous avez passé une bonne nuit. Ce matin, pour conclure cette journée de retrait, le Seigneur a mis sur mon cœur, en ce 3 février, cette parole que j'ai écrite et qui est dans le même sens que tout ce que nous avons déjà vu. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent pour leur faire connaître son alliance. C'est la traduction la plus littérale et que nous trouvons au psaume 25e, verset 14e.
la plupart d'entre vous qui avez la vie du second trouveront au lieu du secret l'amitié de l'éternel. Mais justement, quand il y a une amitié, il y a des communications. Une autre traduction dira les communications intimes de Dieu sont pour ceux qui le craignent. Ceux qui ne craignent pas Dieu, Dieu ne peut pas leur faire des communications intimes ou leur révéler un secret. Un secret qui les comblera de joie. Mais je veux croire que vous devenez de plus en plus intime avec le Seigneur. La parole prophétique ou une langue qui brille dans un lieu obscur. Vous savez maintenant, je veux le croire, que la parole prophétique c'est toute l'Écriture, c'est toute la Bible. Mais cette parole, nous ne devons pas la tordre. Elle ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. C'est pourquoi la parole ne s'éclaire que par la parole. Et voilà ce qui est essentiel pour nous, c'est de bien comprendre qu'il nous faut connaître non seulement des passages de la Bible, mais il nous faut connaître la Bible. Il nous faut connaître toute l'Écriture. C'est ce que nous a enseigné Jésus, car il a souligné qu'il n'y a pas un texte, qu'il n'y a pas une parole, pas un iota, pas un trait de lettre qui a été écrit et qui ne sera pleinement réalisé. Donc nous pouvons nous confier dans l'autorité de l'Écriture, c'est leur autorité en matière de foi. Et c'est la connaissance de ces paroles qui nous éclaire, qui est une lampe. Et c'est une véritable révélation qui nous est donnée et qui peut nous apporter cette intelligence dont nous avons tant besoin. Et je vous ai rappelé que la définition de l'intelligence dans le livre de Job, c'est de se retirer du mal. Être intelligent, c'est pas simplement avoir des grandes facultés intellectuelles, mais le premier signe d'intelligence, c'est de savoir discerner le bien et le mal, et de se retirer du mal. Non pas dire, je peux y aller, je m'arrêterai à un certain moment. C'est faux. L'intelligence, c'est de se retirer du mal. Et alors, si nous sommes de ces simples qui croyons la parole comme des enfants, eh bien, nous ferons l'expérience de ce texte que le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et nous voulons être des hommes et des femmes dans cette fin d'un âge, dans cette fin du siècle. Nous voulons être de ces hommes disponibles qui sont prêts à entendre les communications de Dieu et à devenir des Bibles vivantes, à devenir une parole incarnée en nous. Alors, je vous laisse cette parole ce matin pour ouvrir cette dernière journée. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. Et les alliances de Dieu, eh bien, il les accomplit toujours. Nous sommes dans son alliance. Et le retour du Seigneur, est-ce que c'est un secret dans la Bible? Non. Que le Seigneur revienne, il l'a dit dans le chapitre 14 de Jean. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Qui s'apprêtait à dire, vous croyez en Dieu. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Donc croyez mes paroles. Comme on croit les paroles des prophètes, nous croyons aussi les paroles de Jésus. Nous croyons en lui. Et il ajoutait, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et je vais vous préparer une demeure. Ils étaient pris On sent que Jésus leur parlait toujours de son départ. Je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais, je reviendrai. Donc là, il leur révèle, il n'a pas révélé ça au monde, mais il a révélé ça à ses disciples. C'était ceux qui le craignent, il leur révèle ce que c'est. Je reviendrai. Je m'en vais, mais je reviendrai. Et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi avec moi. Alors, la question que l'on se posait, c'est comment reviendra-t-il? Et alors, c'est par la parole que vous avez les réponses. Et c'est là que nous apprenons que c'est un secret, que c'est un mystère, que tout le monde ne sait pas cela. Et c'est Paul qui nous a révélé cela en disant que ça, il a reçu du Seigneur. Ce que le Seigneur a dit, c'est qu'on ne savait ni jour ni heure de son retour. Et qu'il fallait toujours prêt. De sorte que même les premiers disciples ont pu penser que le Seigneur pouvait revenir pendant leur existence, pendant leur vie. Si, au moment où Étienne a rendu témoignage à la résurrection de Jésus, eh bien, si à ce moment-là, les Juifs avait été touché, avait eu le cœur touché, qu'est-ce qui se serait passé? Jésus, Étienne a la vision, on est en train de le lapider, et tout à coup il dit, je vois le ciel ouvert, et Jésus debout, à la droite de Dieu. Il était prêt à revenir, mais ce dernier témoignage du premier martyr chrétien, Étienne, a été rejeté, il a été lapidé. Mais c'est ce témoignage d'Étienne qui a été le premier aiguillon dans le cœur de qui? De Saul de Tarse. Hein? Parce que quand il lui apparaît sur le chemin de Damas, le Seigneur, il lui dit, il t'est dur de te regimber contre les aiguillons. Ça avait été quand même un aiguillon pour lui de voir ce jeune homme, plein de foi, qui mourait en disant, je vois Jésus debout à la grâce de Dieu, et dire, Père, ne leur impute pas ce péché. Il parle comme son maître, comme le Seigneur. Vous voyez qu'il est identifié à son maître. C'est pourquoi Jésus peut dire à cause de ça, je suis Jésus que tu persécutes. Et Dieu est devenu comme Jésus. Il parle comme son maître. Il meurt dans la paix et dans le pardon. Oh mes amis, s'il y avait quelqu'un ici qui n'est pas pardonné à l'un de ses proches, peut-être dans sa famille, ou quelqu'un qui a subi des injustices, si vous saviez ce que vous pourriez connaître si le pardon entrait dans votre cœur. Je demanderai, j'ai demandé cette nuit, que Dieu vous donne aujourd'hui, jour de grâce, de dire, je n'attends pas qu'on vienne me demander pardon, mais je pardonne. Et puis ne dites pas, je pardonne, mais je n'oublie pas. Je pardonne. C'est une véritable libération. Et c'est ça qui bloque les exaucements de prière. Parce que le Seigneur n'exauce pas ceux qui n'ont pas pardonné. Et il faut commencer par là. Il nous a pardonné. On dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Eh bien, mettez en pratique cette prière. Et si vous pouviez recevoir de cette retraite, simplement, cette certitude que vous serez exaucé si vous savez pardonner, mais totalement, et puis quand on a pardonné, eh bien, on ne revient plus sur le passé. Et vous savez, le Seigneur l'a montré encore récemment, il ne faut pas toujours revenir sur notre passé, sur ce qu'on a pu nous faire comme injustice. Nous voulons regarder en avant, vers qui? Vers Jésus. Oubliant les choses qui sont derrière. Ne vivons pas toujours dans le regret, dans ce passé. Oubliant les choses qui sont derrière, nous tendons avec effort vers celles qui sont devant, comme on croit au juste. Et c'est le but, c'est le Seigneur. Le Seigneur qui vient à notre rencontre. Je vous dis un mystère, dit l'apôtre Paul, chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Je vous dis un secret. Nous ne mourrons pas tous. Vous ne pouvez pas que c'est merveilleux. Il n'y a pas besoin de faire un préarrangement. Nous ne mourrons pas tous. Donnez déjà de l'argent pour un préarrangement. nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, la trompette de Dieu sonnera, et nous, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, nous serons changés. Et tous ensemble, par cette puissance que le Seigneur a de s'assujettir toutes choses, nous serons enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. De sorte que nous serons associés à son règne. Quand il revient alors sur la terre, il aura les siens avec lui, et c'est lui qui les présentera au monde. Voyez-vous, mes amis, et c'est cela que je voudrais que vous saisissiez, ce n'est pas à nous de nous montrer aujourd'hui au monde. Nous avons à montrer qui Jésus. Christ en nous, l'espérance à toi. C'est ce qui nous est demandé. Que nous puissions montrer que nous sommes habités, qu'il est au ciel et dans nos cœurs. Pas seulement ce qu'on voit sur les tombes, dans les cimetières. Hein. Il est au ciel et dans nos cœurs. Il est au ciel, le Seigneur, oui, mais il est aussi dans nos cœurs. Et ce que le monde doit voir de nous, c'est la personne de Jésus. Et alors, quand lui viendra, il est dit qu'il nous présentera au monde. C'est lui qui nous fera connaître au monde, qui dira, ben voilà, ceux qui m'ont aimé et qui m'ont manifesté maintenant, je vous les présente. Vous qui avez été méprisés, c'était dans vos familles, vous serez manifestés au monde. C'est pas moi qui dois me manifester, montrer ce que je suis. J'ai à montrer aujourd'hui ce qu'il est. C'est ça le secret. Montrer au Seigneur, à montrer au monde ce que lui est. Nous faire oublier nous, mais montrer ce qu'il est. Et un jour, c'est lui qui vous présentera et qui vous justifiera. Nous n'avons pas besoin de nous justifier. C'est Dieu qui justifie, qui condamnera. Voici, vieilliront tous comme un habit, ils seront changés. Alors, que le Seigneur vous donne les bien-aimés, cet esprit de pardon, et vous aurez la délivrance. Vous pouvez le tuer si c'est pas vrai. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te remercier parce que nous croyons qu'en Jésus, tu nous as donné vraiment tes pensées et qu'en suivant cette parole, nous sommes dans la vérité. Accorde-nous cette grâce d'aimer cette vérité et d'en vivre et prends en main cette dernière journée pour que nous recevions la grâce dont nous avons besoin en Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous dis bon appétit et je...